Vous avez choisi France Inter. Bonne pioche, il est 7h30. Aujourd'hui dimanche, le 19 janvier, voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour, 5, 4, 3, 2, 1, boum! Le récit par Donald Trump de l'assassinat du général Soleimani. Hallucinant, vous l'entendrez, les Iraniens apprécieront. Le journaliste et militant accusé d'avoir averti de la présence d'Emmanuel Macron dans le théâtre parisien investi par des contestataires a été placé sous le statut de témoin assisté. Atteinte à la liberté de la presse, s'indigne son avocat. Dans ce journal encore, la générosité sans fin d'un restaurant lillois. Et puis retenez son nom, Ryan Cherki. C'est la nouvelle pépite du football français.
Les invités de la matinale, à partir de 7h50, Patricia, vous recevrez
l'écrivain Régis Geoffrey pour son nouveau roman, Papa, qui paraît aux éditions du Seuil.
Et à 8h20, notre invité, le journaliste Charles Anderlin, pour son dernier livre, Les Juifs de France, entre République et Sionisme.
France Inter.
Quand Donald Trump raconte la mort du général iranien Soleimani, un peu comme s'il était au cinéma.
Un compte à rebours avant le grand boom, hallucinant récit par Donald Trump de l'assassinat dans un raid américain du chef de guerre iranien Qassem Soleimani. C'était le 3 janvier dernier à Bagdad. Loïc Loury, l'enregistrement du président américain a été récupéré et diffusé par CNN.
Qassem Soleimani était censé être invincible. Les mots sont ceux de Donald Trump face à des donateurs de son parti dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Un président vantard, vulgaire, qui justifie une fois de plus l'assassinat du général iranien. Il disait de mauvaises choses sur notre pays, on va l'attaquer, tuer des Américains. Et j'ai dit, écoutez, combien de temps va-t-on devoir écouter ces conneries ? Donald Trump, avec son style habituel, a ensuite évoqué l'opération elle-même, allant jusqu'à imiter les militaires américains qui s'adressaient à lui. Ça vient de caméras qui sont à des kilomètres d'altitude. Ils m'ont dit, ils sont ensemble, monsieur, et ils ont 2 minutes et 11 secondes à vivre. Ils sont dans la voiture, ils sont dans un véhicule blindé, monsieur. Ils ont environ 1 minute à vivre. 30 secondes, 10, 9, 8, et soudainement, boum, ils sont morts, monsieur. J'ai alors demandé, où ce type est-il passé ? C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de lui. Une frappe, dit-il, qui a secoué le monde. Il méritait qu'on le frappe durement parce qu'il était méchant. Il a tué des centaines de milliers de personnes, assure-t-il, et des milliers d'Américains. New York, Loïc Loury, France Inter.
En finir avec le chaos libyen, le sommet de Berlin aujourd'hui n'a pas une telle ambition. Il s'agit d'abord de consolider la trêve entre les deux camps qui revendiquent leur légitimité. Le gouvernement installé à Tripoli, seul reconnu par l'ONU, et le maréchal Haftar qui bombarde les abords de la capitale. La Libye est devenue en quelques mois un terrain de lutte d'influence pour les grands voisins. Derrière le maréchal Haftar, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Russie. Derrière, le gouvernement Sarraj de Tripoli, la Turquie qui a d'ailleurs annoncé officiellement en début de semaine l'envoi de forces militaires en Libye. Le Liban a lui connu hier l'une de ses plus violentes journées depuis le début, il y a 3 mois, de la contestation sociale et politique. Plus de 220 personnes ont été blessées à Beyrouth dans des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre.
En France, la contestation toujours sur la réforme des retraites.
Après l'intrusion dans le théâtre parisien où se trouvait Emmanuel Macron vendredi soir, le parquet de Paris a ouvert une information pour participation à un groupe en vue de commettre des violences. Le journaliste et militant Taha Bouaf, qui avait été interpellé alors qu'il se trouvait lui aussi dans ce théâtre, a été placé sous statut de témoin assisté. Il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est la liberté de la presse qui est en jeu, selon son avocat Arié Halimi.
La garde rapprochée d'Emmanuel Macron a dénoncé auprès des fonctionnaires de police le fait qu'un jeune homme, un journaliste, Taha Bouaf en l'occurrence, aurait écrit des tweets pour appeler des manifestants à se rassembler et à manifester devant le théâtre. Ce qui est en fait faux. Il se contente de rendre compte de ce qu'il avait lui-même vu sur Internet. Je pense qu'on a franchi un cap dans la répression des journalistes et dans ces atteintes manifestes au droit d'informer. Son portable a été saisi par le parquet. Je pense que c'est une volonté du parquet pour qu'il ne puisse plus l'utiliser et ne pas rendre compte de ce qui s'est passé dans ce théâtre. C'est regrettable. On veut l'empêcher d'informer, on veut l'empêcher d'être journaliste.
Et puis après l'incendie de la Rotonde, un restaurant parisien fréquenté aussi par le président de la République, la piste criminelle est suivie. D'autre part, l'UNSA, le premier syndicat à la RATP, vote la suspension de la grève jusqu'à la nouvelle journée d'action vendredi prochain. Résultat, nette amélioration dans les transports parisiens. Seules les lignes 5 et 13 du métro et le RER B seront encore perturbées demain. Enfin, 59 personnes ont été interpellées hier à Paris après les violences qui ont suivi une manifestation de gilets jaunes. Rachida Dati, deuxième derrière Anne Hidalgo dans les intentions de vote pour les municipales à Paris. C'est un sondage IFOP qui paraît aujourd'hui dans le journal du dimanche. À 19%, elle est 6 points derrière la maire actuelle qui est candidate à sa succession. C'était donc la fête hier autour de la galette. Cécilia Arbona pour les vœux de la candidate, les Républicains. Et pas question que quelques voix dissidentes gâchent l'ambiance.
Avant le verre de l'amitié pris devant une part de galette des rois géantes, c'est un sondage qui a grisé l'assistance. La présidente de la Fédération des Républicains à Paris, Agnès Evren.
Rachida Dati, elle a fait un bond dans les sondages et elle est aujourd'hui deuxième derrière Anne Hidalgo. Grâce à toi, nous allons tout simplement dégager Anne Hidalgo de la mairie de Paris. Paris, franchement, c'est vraiment à notre portée et ça dépend de vous. De notre union.
Mais l'union n'est pas une réalité partout. L'homme fort du 15e arrondissement, Philippe Goujon, refuse de soutenir Rachida Dati et il a eu surtout des mots cruels envers elle.
Il a dit, moi je ne peux pas prononcer son nom et son prénom. Moi je trouve que c'est pas correct.
Son conseiller politique grimace et soupire, Claude Guesguen.
Je vois bien que certains ne sont pas contents que Rachida Dati marche bien. Donc ils ont des tentations, peut-être des regrets. Je ne comprends pas l'attitude de Goujon, je ne comprends pas. Qui prend la tangente et qui s'en va ailleurs, qui fait semblant de ne pas comprendre ce qu'on lui dit, ça me fait de la peine, quoi. Mais très franchement, le mieux, c'est qu'il rentre à la maison LR le plus rapidement possible. Il y aura une réunion mercredi.
Rendez-vous est pris pour mercredi, donc, mais Rachida Dati ne semble pas disposée à pardonner. Elle a déjà un plan B en tête.
Vous réfléchissez à placer quelqu'un face à M. Goujon ?
Oui.
Elle jubile à l'idée de désigner un ou une candidate fidèle pour aller défier sur ses terres l'irrespectueux Goujon.
Cécilia Arbona et puis une manifestation ce dimanche à Paris contre le projet de loi bioéthique des opposants à la PMA élargie à toutes les femmes alors que le texte arrive au Sénat.
La générosité dans toute sa grandeur.
C'est un restaurant qui porte si bien son nom, le Soleil de l'Orient, une lumière dans la nuit pour les SDF à Lille pour la troisième année. Chaque hiver, tous les soirs, ils peuvent y trouver la chaleur d'un bon couscous gratuit, Marianne Yotis.
En rentrant du travail le soir, Shaila Rebé, gérante du Soleil de l'Orient, croise un grand nombre de sans-abri. Émue par leur situation, elle décide donc de les aider en distribuant des boîtes de couscous de son restaurant.
Il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui dorment dehors, surtout les froids à Lille. Donc je dis, vas-y, on peut donner quelque chose, au moins pour manger un repas chaud. C'est solidarité.
Depuis cette année, Shaila et son mari mettent les boîtes à disposition directement au restaurant. Tous les sans-abri peuvent venir les récupérer pendant les horaires d'ouverture.
Comme moi, je mange et je dors au chaud, donc je pense à l'être humain de manger quelque chose de chaud. Et c'est comme ça. Et notre éducation en plus. Hein. Et il faut partager avec l'être humain.
Ali, 53 ans, a entendu parler de l'opération par le bouche à oreille. À la rue depuis 15 jours, il est venu chercher du couscous avec sa femme et son fils, très touché par cet élan de solidarité.
C'est un geste très très honorable. On a reçu vraiment la véritable étincelle qu'on attendait. Et ça nous a réchauffé le cœur. On ne pensait pas que des gens comme ça, ça existait encore.
Comme Ali, près de 100 personnes sont venues récupérer des boîtes de couscous depuis le mois de décembre.
Après le Soleil de l'Orient, une pépite, un doublé en moins de 10 minutes, deux passes décisives. Ryan Cherki, 16 ans, emporte tout sur son passage. C'était hier en 16e de finale de la Coupe de France pour son deuxième match seulement comme titulaire à Lyon face à Nantes. Bruno Salomon.
Au coup de sifflet final de ce Nantes-Lyon, Ryan Cherki a mis genou à terre, puis embrassé la pelouse de la Beaujoire. Avec ses deux buts et deux passes décisives, l'attaquant de 16 ans et demi a éclaboussé cette rencontre face à Nantes. Pour son coéquipier Martin Terrier, il est l'homme du match.
C'est vrai que c'est un phénomène. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui misent sur lui. Après, ça a lui de continuer à travailler et de confirmer son talent.
Pour entendre la voix du prodige natif de Pusignan en banlieue lyonnaise, il faudra attendre un petit peu car hier soir, Ryan Cherki s'est dit fatigué, refusant de parler à la presse. Son coéquipier Marshall l'a annoncé, les anciens vont veiller sur lui.
Il est vraiment un joueur magnifique et besoin d'être fait ce travail avec lui. Mais il est intelligent et je pense que les choses vont bien marcher avec lui.
Après cette prestation haut de gamme, Ryan Cherki pose un problème à Rudy Garcia, son entraîneur. Faut-il recruter un attaquant à l'OL ou laisser plus de temps de jeu à ce crack de 16 ans et demi? La question peut se poser sérieusement. À Nantes, Bruno Salomon, France Inter.
Et Patricia Martin est subjuguée. Vous avez retenu son nom.
Vous parlez de Ryan Cherki?
Voilà, parfait.
Alors. Bien. Avis d'expert, Cézanne, ce matin.
Je croyais que c'était Alain Baraton. Alors là, je vous aurais
ça vient,
la réponse n'aurait pas été la même.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz.